route internationale avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome. Impossible de ne pas céder à la tentation de manier avec énormément de fluidité, hein, vous l'aurez entendu, le temps de quelques mots, la langue de Shakespeare. Impossible de ne pas céder à la tentation d'écouter le temps de quelques notes. Les Beatles, les Fab Four, originaires de Liverpool, mais qui ont gravé leur légende sur disque à Londres, notamment dans les mythiques studios d'Abbey Road. Vous l'aurez compris, la finale 100% britannique de la Ligue des Champions Tottenham-Liverpool est à la une de Radio Foot International ce vendredi pour un café des sports aux allures de pub anglais et pas de vin rouge ni de saucisson à la carte. Place à la bière et aux fish and chips à consommer avec modération. Bien sûr, on va voir comment se comporte Rémi Ngono dans ce décor temporaire. Bonjour Rémi.
Bonjour, je viens d'enlever ma veste donc pour dire que il y a bagarre.
Pas de modération dans les propos de Rémi Ngono, jamais. Décor temporaire, plateau de circonstances les plus british de nos consultants ont logiquement été conviés ce vendredi et il leur tarde d'assister enfin à cette finale de Ligue des Champions. Les prochaines 24 heures vont défiler lentement pour vous, Bruno Constant. Bonjour.
Good afternoon.
Good afternoon to you too.
Yeah.
Wonderful. Wonderful. Bonjour Salim Bongeli.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Et bonjour Tom Rossi.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Le réfécito du jour, hein, vous remplacez Alejandro Valente. Souriez messieurs, puisque vous êtes filmé Radio Foot, vous propose son Facebook Live pour suivre l'émission en direct et en image. Comme chaque vendredi, vous pourrez constater hein, nos efforts vestimentaires. Un maillot de foot pour trois d'entre nous. Enfin plutôt, un maillot de foot chacun. Salim Bongeli, vous avez opté pour un rouge vif.
Oui, c'est ça. Il y a une équipe qui joue en rouge, l'autre en blanc. J'ai hésité, je me suis dit, allez, on va pencher sur le maillot rouge, qui est en plus dédicacé par Djibril Cissé.
Donc voilà, maillot de Liverpool qui ne dit rien de vos préférences.
Nullement.
Votre club de cœur, il joue à Londres.
Je
c'est pas Tottenham.
Pas. C'est West Ham.
Et il ne peut pas porter le maillot de Tottenham en étant supporter de West Ham.
Ah
c'est
non,
pas possible.
Non. Tottenham
là,
et West Ham, c'est légèrement ennemi.
Et a priori, pas de finale de Ligue des Champions demain, au propre comme au figuré pour West Ham.
Peut-être pas demain, mais qui sait, dans pas longtemps.
On verra. Je sais pas si je serai encore là pour présenter Radio Foot.
C'est pas drôle ça, dis donc. C'est
pardon,
pas bien
pardon,
ça.
Pardon. Provocation d'entrée, c'est pas très fair play. Tom Rossi, vous. Alors c'est bleu, mais faut pas se tromper, c'est bien un maillot de Tottenham, un maillot extérieur.
Offert par Bruno il y a 2 minutes.
Qu'on m'a transmis juste avant.
Parce que Bruno, lui, ne voulait pas porter de maillot. Il veut garder son impartialité.
Exactement.
Et il a bien raison.
Je n'ai aucun club, je ne supporte aucun club anglais.
Au menu de ce café des sports, également une autre finale de Ligue des Champions, celle de l'Afrique. Manche retour à Tunis, ce soir c'est très ouvert. Radio Foot avec aux manettes ce vendredi David Brockway, qui lui pour le coup ne fait pas semblant d'être anglais comme moi. Let the fun begin comme on dit. Come together.
Il a de la place avec Sen. Ouh là 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 là. Heureusement.
Oui, mais c'est pas terminé parce que c'est pour Harry Kane. Harry Kane. Il n'y aura pas eu de Dortmund Tada aujourd'hui. On y a cru. L'espace peut-être de 10 minutes au cœur de la première période. La faute à un super Hugo Lloris qui a tout repoussé.
Trippier au corner. C'est fou, la qualif change encore demain. C'est Tottenham désormais qui entrevoit les demi-finales.
Aguero to Sterling, this is it. The ball's in the net, Sterling's done it. Well, it's ruled off for offside. Can you believe it?
Tottenham are the greatest team the world has ever seen. Tottenham are the greatest team the world has ever seen.
C'est terminé. Tottenham se qualifie pour la première fois de son histoire. Finale de la Ligue des Champions au terme d'un match historique.
Les dernières secondes, le ballon de Sissoko vers Llorente, c'est maintenant ou jamais Tottenham. Dele Alli vers Lucas.
Non, c'est pas possible.
Lucas,
c'est pas vrai ce qu'il a fait Lucas.
Il l'a
c'est
fait.
Lui qui les envoie en finale.
Le héros.
C'est dingue.
C'est terminé. Tottenham réalise le plus bel exploit de son histoire.
Glory, glory, Tottenham Hotspur. Glory, glory, Tottenham Hotspur.
L'affiche de la finale de la Ligue des Champions en dit long sur ce qu'a été cette édition 2018-2019 de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Tellement de surprises, de retournements de situation pour notre plus grand plaisir. Bien sûr, Tottenham particulièrement est souvent passé par un trou de souris, du but refusé à Manchester City au bout du bout des quarts de finale au triplé ahurissant de Lucas Moura en demi-finale. Retour à Amsterdam, la dernière ligne droite du parcours des Spurs aura été particulièrement mémorable. Rémy Ngono, c'est un beau finaliste Tottenham ou bien c'est un finaliste chanceux?
Un finaliste chanceux. Chanceux pourquoi? Parce que Tottenham aurait pu être éliminé dès les phases de poule. Lorsqu'on sait quand même que c'est parce que Inter s'écroule, parce qu'Inter ne parvient pas à tenir son rang, que Tottenham est surpris d'être relancé. Parce qu'il faut quand même se dire que pendant qu'Inter avait 7 points, Tottenham n'avait qu'un point. Donc à une certaine période, on ne voyait pas ce Tottenham-là. Donc j'ai dit déjà que être qualifié avec 8 points sur un petit goal à verrage, c'est déjà une chance. Et maintenant, quand on essaie de regarder aussi les retournements de situation par rapport à ces matchs-là, c'est-à-dire que vous titularisez un Lucas Moura qui, normalement, si Harry Kane aurait pu jouer, eh bien, lui, et c'était fini. Donc, finalement, c'est ce Lucas que tout le monde disait, il est maladroit devant les buts, il met toujours la tête basse et puis il fonce comme un taureau jusqu'à ce qu'il se percute un mur. C'est lui qui vous sort un triplé. Vous vous rendez quand même compte qu'aucun joueur brésilien, que ce soit le grand Ronaldo R9, n'avait jamais réussi ça. Oui, c'est comme ça. Donc pour moi, quand j'ai vu ce match-là, et surtout cette façon de se qualifier au moment où Tottenham perd sa flèche de lance, j'ai dit, alors là, ironie du sort, mais de la plus belle des manières.
Donc de la chance, du mérite quand même pour Tottenham.
De la réussite, ok, Rémy l'a très bien dit, mais à un moment donné, quand vous arrivez à vous battre, à un moment donné, face à City, ils sont menés 4-2, donc ils sont éliminés aussi. Et vous avez Llorente, on le voyait pas dans cette équipe, il réussit. Alors un but, on n'arrive toujours pas à comprendre s'il le marque un petit peu de la main ou pas, en tout cas il arrive à le marquer. Cette abnégation-là, montrée par Tottenham tout au long de cette saison, face à Dortmund, notamment le match retour, alors ils avaient gagné le match aller de manière assez large, mais le retour, il fallait tenir. Hugo Lloris, qui a montré toutes ses qualités également. Donc c'est de la réussite, mais aussi de la qualité des joueurs, tout simplement. Et puis en demi, Lucas, on l'a dit, cette abnégation jusqu'à la dernière seconde. Donc oui, réussite, mais ce n'est pas que de la chance. La chance, vous l'avez provoquée. Les Spurs ont fait.
Bruno Constant.
Pour moi, c'est tout sauf de la chance. On ne peut pas être finaliste avec des champions sans de la chance. C'est pas possible. Ouais. Pour moi, Tottenham, c'est vraiment l'image de l'abnégation, du travail, les capacités physiques. Ils finissent leur match très fort. C'est comme si on disait que Liverpool avait gagné la Ligue des Champions 2005 avec de la chance. Parce qu'ils étaient menés 3-0 à la mi-temps et qu'un match d'une finale s'arrêtait à la mi-temps. Ben non. Il y a deux mi-temps et dans un match et sur les matchs de Ligue des Champions, il y a deux tours, match aller et un match retour. Et Tottenham, ils ont montré cette force de caractère et c'est pour ça, pour moi, c'est la principale raison qui en font un finaliste très dangereux pour Liverpool.
Tom Rossi, un petit mot sur le palmarès de Tottenham. Constitue un peu cette équipe dans la grande histoire du football européen.
Bah, au niveau européen, c'est une seule, c'est la première finale. Et une première demi, c'était en 1962. Et donc, au niveau du palmarès, c'est seulement deux coupes UEFA. La dernière, c'était en 84. Et le dernier titre de Tottenham, est-ce que vous vous souvenez peut-être, c'était une petite coupe de la Ligue en 2008 contre Chelsea.
Donc première finale de Ligue des Champions, une finale de Coupe d'Europe remportée il y a déjà très longtemps, de titres.
Vous avez dit quoi les dates des finales?
72 et 72.
Moi c'est 63 et 72.
Mais oui, c'est ça, plutôt 63 et 72.
C'est pas la même finale, on parle pas de la même finale. Ils ont gagné la Coupe des Coupes. Tottenham, on l'oublie, ils ont une histoire européenne. Hein. Ça a été une grande équipe des années 60-70. Ils ont gagné la Coupe des Coupes en 63. C'est la première équipe anglaise qui gagne une Coupe d'Europe. Devant le Manchester United de Matt Busby et George Best qui gagne la Ligue des Champions en 68, 10 ans après le crash de Munich. Et ils gagnent ensuite d'ailleurs la Coupe de l'UEFA en 72. Et c'est la première équipe à avoir gagné deux Coupes d'Europe différentes en Angleterre. Ils ont un passé européen qui est très lointain aujourd'hui.
Un passé lointain, c'est ce que j'allais dire.
Ils ont une histoire. Ils ont vraiment une histoire.
Alors, il y a une régularité en championnat avec une présence régulière, même systématique dans le Big Four, le fameux.
Depuis peu.
Mais donc, du coup, est-ce que Tottenham est l'une des deux meilleures équipes européennes? C'était aussi ça l'esprit de ma question. Tottenham est à sa place en finale de Ligue des Champions?
Ça, c'est une question qu'on peut se poser souvent quand on a des finales. Est-ce qu'en 2013, Dortmund et le Bayern sont vraiment les deux meilleure équipe européenne? C'était le symbole de la puissance du football allemand. Là, Tottenham, c'est en tout cas celle qui s'est... Ils ont quand même éliminé Dortmund qui était leader de la Bundesliga au moment où ils éliminent. Ils sortent d'un groupe où il y a le Barça et l'Inter. Ils éliminent Manchester City, qui est l'équipe qui marchait presque sur la première ligue avec Liverpool. Donc voilà, ils sont là, ils le méritent. Après, effectivement, c'est un nom qui fait moins rêver que le Barça, c'est ou ça, que le Bayern, ou
le truc, Real. C'est que quand on voit le parcours des différentes formations, pardon, mais on évoque souvent avec Rémy Nguenaud le Real Madrid. Le Real, cette année, évidemment, a été un ton au-dessus. Le Barça, ben, est passé totalement à côté de son match face à Liverpool. Alors, on a évoqué Tottenham, cette réussite, mais au final, elle a été, j'ai presque envie de dire, régulière dans cette réussite. Là où d'autres équipes ont manqué de régularité, justement, les équipes espagnoles, les équipes allemandes, les équipes italiennes. Donc, au final, c'est pas illogique de voir Tottenham. Oui, c'est un nom moins ronflant, mais au final, c'est pas illogique.
Harry Kane va-t-il être de retour sur les pelouses demain, le buteur anglais,
déjà
absent
il est dans le
depuis
coin.
Début avril.
Il est dans le coin, déjà. C'est déjà une bonne chose. Il est effectivement à l'échauffement et il s'échauffe. Il est dans le groupe. C'est déjà une bonne nouvelle pour cette formation. En plus, il y a encore deux objectifs puisqu'il y a ça et puis il y a également la Ligue des Nations avec l'équipe d'Angleterre aussi. Et pourquoi pas une possibilité de remporter ce titre-là. Mais pas sûr qu'il démarre. En tout cas, les dernières infos évoquent peut-être un joueur Kane qui serait remplaçant.
C'est moi, j'étais cette semaine à Tottenham, là, ils faisaient leur Media Day, donc j'ai vu passer Harry Kane. Lui, il est déterminé à débuter. Le problème, c'est que c'est une vraie question pour Mauricio Pochettino, parce que de savoir si la bonne solution, c'est vraiment de débuter avec Harry Kane. Ou si c'est pas de le garder, si vraiment ça se passe mal et que lancer ses derniers atouts, ses dernières cartes en fin de match. Il y a un risque, hein. Mais par le passé, Harry Kane a souvent montré qu'il est capable de revenir très vite et de redébuter les matchs.
Alors, s'il débute avec qui et s'il ne débute pas, qui débute à sa place?
Ben, là aussi, ça me paraît difficile.
Ils ont quand même beaucoup de solutions. Ils ont des solutions. Déjà, je crois que même Lucas déjà a montré qu'il était une bonne solution. Et d'ailleurs, donc, moi, je me dis, aujourd'hui, c'est une équipe de Tottenham qui, à la première mi-temps, se recroqueville souvent pour finir, comme vous avez dit, très fort vers les dernières minutes. Donc, moi, je me dis que Harry Kane, ça ne vaut pas la peine qu'il soit là au début, mais qui est peut-être quelqu'un capable de garder la balle, de perforer derrière la défense, d'avoir de la vitesse comme par exemple Lucas, parce que il faut savoir également que une équipe comme Liverpool peut parfois se permettre de monter, donc avec un Lucas c'est nettement mieux.
Et Lucas, mais surtout n'oublions jamais Heung-Minson, qui est quand même, quand Kane n'est pas là, c'est un joueur qui est hors norme, le coréen. Il a montré aussi sa qualité, notamment
et il avait beaucoup manqué en demi-finale aller, hein,
tout à fait,
l'Ajax à Londres. Tom Rossi, les statistiques des attaquants de Tottenham pour qu'on ait une idée des ressources de Mauricio Pochettino.
Oui, en première ligue, Kane, c'est 17 buts en 28 matchs. Il n'a plus joué depuis début avril. Son, vous le disiez, c'est quand même 12 buts en 31 matchs. Et Lucas, 10 buts en 32 matchs. En Ligue des Champions, c'est à peu près pareil pour tout le monde, hein. 5 pour Kane, 5 pour Son, 4 pour Lucas, dont
3 lors du précédent match. Rémi parlait de Lucas. Doit-il tout simplement être titulaire quand un joueur vous qualifie comme Lucas a qualifié les Spurs? Doit-il nécessairement être titulaire, même si Harry Kane revient?
C'est difficile de ne pas le mettre sur le terrain, parce que c'est l'homme qui est en confiance.
Ça, c'est ce que vous pensez, mais quelle sera la réalité selon vous?
Moi, je pense que c'est la question que se pose Pochettino. C'est une vraie équation pour Pochettino. La logique voudrait qu'il mette à peu près la même équipe qui a fini le match en demi-finale, et qu'il s'appuie sur cette logique ou cette dynamique, même si maintenant elle est un peu loin, et qu'Harry Kane puisse rentrer en cours de match. J'ai du mal à penser qu'il puisse se passer de Lucas au coup d'envoi.
Rémy Nguenaud, vous n'hésitez pas, vous le mettez titulaire?
Je le mets, parce que même quand Kane sort, quand il entre, c'est vrai qu'il fait deux mauvais contrôles, parce que certainement il ne s'attendait pas à pouvoir jouer, il n'est pas sûr de lui, mais par la suite quand même, on va voir qu'il va peser beaucoup, et au match retour, je dis bien, quand on parlait tout de suite de chance, certes, il y a cette chance-là, mais il y a un homme, c'est Lucas. Peut-être aussi il y a Sissoko qui va faire un travail de monstre au niveau du milieu de terrain. C'est lui qui fait tout, parce que c'est lui qui mène tout le monde, c'est lui qui est à la défense, à l'attaque, c'est lui qui joue le rôle de courroie de transmission. Donc pour moi, on ne peut pas se priver des meilleurs éléments. Ceux qui ont montré beaucoup d'abnégation, ceux qui ont montré du volontarisme et surtout beaucoup de réussite. Donc pour moi, je trouve que aujourd'hui Harry Kane va revenir pour une compétition, soyons sérieux. Il est blessé, logiquement, médicalement, sportivement, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie un muscle qui travaille s'hypertrophie. Donc, revenant de la blessure, il est en cours de rythme.
Ça, c'est de la théorie, mais Harry Kane.
C'est de la théorie, mais c'est ça aussi la science.
Mais l'histoire d'Harry Kane a prouvé à chaque fois qu'il s'est blessé qu'il est revenu très vite, qu'il est revenu très fort. Il a débuté, il a joué, il a marqué. Ouais. Faut juste rappeler que Lucas avait marqué en championnat à Liverpool. Il s'était incliné 2-1 en field. Ça avait été un match fantastique et c'est ce qui nous fait dire que ça peut être une finale vraiment magnifique. C'est sans doute un des meilleurs matchs, les plus beaux matchs de la première ligue cette saison. Et Lucas avait marqué à ce match-là. Donc, c'est difficile, je pense, malgré tout, de s'en priver au coup d'envoi.
Et encore une fois, vous mettez Kane à part, vous avez quand même Lucas Moura, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung-Min Son, vous avez comme, et Fernando Llorente aussi, hein. Llorente, on le met de côté, mais il a son utilité, pas qu'un peu. Donc, vous avez quand même des joueurs à vocation offensive, ô combien intéressants du côté de Tottenham.
Donc, des ressources de groupe, c'est peut-être d'ailleurs ça, vraiment, la force de Tottenham, la capacité à avoir des joueurs qui prennent la place d'autres et de changer de système. On a quand même remarqué que Mauricio Pochettino, il fait pas toujours les très bons choix au départ. C'est ce qu'on a remarqué en Ligue des Champions, en demi-finale contre l'Ajax. À chaque fois, il a fallu rectifier le tir.
Klopp non plus. Hein.
Klopp non plus. On en parle après.
Et dans l'autre sens, je vais vous dire, il fait les bons choix justement en cours de rencontre.
Oui, mais alors là, vous avez un one shot, comme on dit en anglais. Vous avez qu'un match. Est-ce qu'il ne faut pas faire les bons choix dès le début, Tom Bruce, si vous voulez intervenir?
Oui, juste pour donner deux exemples de match. Le retour Manchester City Tottenham, il commence dans un espèce de 4-4-2 en losange. Ouais. Puis il y a la blessure de Sissoko qui intervient à la 30e. C'est là qu'il fait rentrer Llorente. C'est pour ça que je me dis, est-ce que à ce moment-là, tu fais rentrer un milieu défensif? Lui choisit de faire rentrer un attaquant dès la 30e minute. Choix payant puisque c'est Llorente qui les qualifie.
Il n'était pas à 4-4-2, un match retour.
Match retour, 4-4-2 en losange.
Il est en défense à 3, il passe à une défense à 4 parce que justement ça se passe mal.
Il joue
avec Rose sur le côté gauche.
Passage en 4-2-3.
Mais c'est vrai, les débats tableau noir. En tout cas,
ça confirme qu'il s'est effectivement souvent trompé au coup d'envoi. Mais par contre, il a cette capacité à réagir lui très vite si ça se passe mal.
Parce que pour le coup, on peut au moins saluer ça de Mauricio Pochettino. On critique souvent des entraîneurs. Parfois, ici, sur ce plateau, on a pu critiquer Unai Emery ou d'autres. Je prends le cas Emery parce que je vois le maillot de Chelsea face à Arsenal où il attend 3-0 et je voyais l'un de vos tweets il y a quelques jours, Bruno. Il attend 3-0 pour faire un changement enfin en Emery. Il y a d'autres entraîneurs qui attendent. Lui, il n'attend pas du tout Pochettino.
Lui ne dit jamais du mal de personne, Rémy Nbono.
Je n'aime pas cette façon de lancer des éloges, des fleurs et toute la couronne à quelqu'un qui n'a jamais rien remporté. Et qu'on dise que non, il fait de bons choix, mais c'est un entraîneur qui, à 46 ans, a un bilan n'ayant pas peur des mots. C'est le pire.
Quel club il a entraîné?
C'est le pire des entraîneurs. Guardiola l'a pas fait, personne n'a fait. Lui, sans acheter un joueur, il arrive au final.
Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous connaissez la valeur de l'équipe que vous venez de citer là? C'est 463 millions. Et quand vous dites,
c'est lui qui
Zidane a acheté un joueur.
Zidane n'a acheté personne pour gagner 3 Ligues des Champions. Maintenant, tu veux me parler de Mourinho. Mourinho a 46 ans avec 2 Ligues des Champions et il avait remporté la Ligue des Champions avec Porto, qui ne vaut pas cet effectif.
Attendez,
je vais te dire, comme tu veux me parler de ça, même Guardiola avait déjà 20 trophées à son âge. Lui, à son âge,
vous êtes le meilleur joueur du monde.
Concluez,
Rémi. C'est un entraîneur qui est spécial loser depuis des siècles et qui est quand même arrivé. Il est arrivé en mai 2014. Mai 2014, même Arsène Wenger, que j'ai souvent critiqué ici, a remporté 2 copes. Lui, 0. Toutes les finales, il perd. Il va encore perdre là. Et vous allez dire, il est très bon. Oh, baba. Oh, magnifique. Il sait. Laissez-nous ça.
C'est un show, en fait.
Vous mettez des caméras, ça devient incontrôlable. Allez, un dernier sujet concernant Tottenham. Hugo Lloris.
On peut peut-être répondre sur Pochettino.
Oui, enfin, a priori, tout le monde la connaît, la réponse.
On ne peut pas laisser une tribune à Rémi pour nous dire que Pochettino est un loser et le pire entraîneur. Alors qu'il fait un exploit magnifique d'amener il a entraîné Southampton, l'Espagnol de Barcelone. Et à un moment donné, il faut être sérieux. Ce qui monte en puissance, c'est un jeune entraîneur qui monte en puissance. Aujourd'hui, on en parle au Real Madrid, on en parle au Bayern de Munich, on en parle à Juventus de Turin. C'est un entraîneur qui est le plus demandé en Europe aujourd'hui. Et il amène Tottenham en finale de Ligue des Champions. C'est juste un exploit énorme.
Ah non,
Rémi. On enchaîne, c'est quand même moi qui décide. Hugo Lloris, le portier, capitaine des Bleus, capitaine des Spurs, décisif face à Manchester City, notamment en quart de finale. Il repousse un il repousse un penalty. Hugo Lloris, ça y est, c'est sa chance d'entrer dans le gratin des très 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 grands gardiens.
Oui, et on en parlait en off avant cette émission. C'est vrai que mis à part une rencontre peut-être face à Barcelone en début de saison dans cette compétition où il a pas forcément été bon, comme l'ensemble des Spurs d'ailleurs à domicile. Sinon, Lloris, il est vraiment monté en puissance comme l'ensemble de cet effectif d'ailleurs. Lloris quand même, il peut juste faire Coupe du Monde et Ligue des Champions en une année. C'est juste ça qui est affolant.
C'est pas arrivé depuis 45 ans. C'était Sepp Maier, l'Allemand.
Donc voilà, Sepp Maier, donc il fait partie des très grands noms, des noms historiques au final du football mondial. Lui est entré dans la légende, pardon, mais si vous gagnez Coupe du Monde un an après la Ligue des Champions, juste les faits, à un moment donné, vous êtes peut-être dans ce gratin des plus grands noms de l'histoire du foot.
L'Angleterre, son football, et puis de la musique également, et puis on passe à Liverpool. T-Rex, London Boys, les gars de Londres. Un dernier petit clin d'œil à Tottenham et puis un peu de musique pour apaiser les esprits pour que
Rémi
Ndono puisse se remettre un peu les idées en place. Il nous a sorti quelques énormités, j'ai à peine relevé. On reste très gentil, avec lui. Allez, après Tottenham, Liverpool bien sûr.
Van Dijk avec Sadio Mané.
Ce but-là contre le Bayern.
Sadio Mané ! Sadio Mané ! Formidable ! Irrésistible Sadio Mané !
C'est bien frappé.
Van Dijk ! Fantastique ! Virgil Van Dijk s'est élevé dans l'Allianz Arena. When you walk
through a storm. That's all right. Perfectly done. Salah's in here. They can make it two. They have done. Game, set and match. Liverpool on their way to the semi-finals. Mo Salah scoring his first away goal of this European campaign and putting this thing well and truly to bed.
Walk on through the wind.
Joel Matip there looking for Sadio Mane, who's capitalised on the mistake. Here's Henderson. He's away. Good save. He scored. There's one there. Alexander Arnold, 20 years of age, he's been here since he was 6, and he spotted that. Oh, Gordon! They tore Barcelona napping! Brilliant thinking by Alexander Arnold! Clinical finish from Divock Origi!
Walk on through the rain, for your dreams be
tied. Quand on entend ce You Never Walk Alone, on pense forcément à celui qui a été entonné à la fois par les joueurs, le staff technique et les supporters au sortir de la demi-finale retour historique face au Barça. Quel parcours également que celui des Reds dans cette Ligue des Champions et surtout ce comeback fantastique, ce retour fantastique face au FC Barcelone. 0-3 à l'aller, 4-0 au retour avec même du Divock Origi par deux fois dedans. C'est dire. Liverpool sera favori de la finale de la Ligue des Champions demain. Ce n'était pas le cas l'an passé face au Real Madrid. Ça n'a pas été le cas depuis longtemps, en finale de Coupe d'Europe, même lorsqu'ils gagnent en 2005 face au grand Milan AC. Ils ne sont pas du tout favoris. 2007 aussi contre le Milan, ils ne sont pas favoris et là ils perdent. Demain ils sont favoris, est-ce que ça change quelque chose?
Est-ce que dans cette compétition, le fait d'être favori ou outsider, ça veut vraiment dire quelque chose depuis
tout
cette saison
quelque part?
Pardon, mais peut-être que vous me poserez tout à l'heure la question du prono. Moi, perso, je sais que je pourrais pas me répondre parce que cette saison est tellement invraisemblable. Tottenham, et on a évoqué ces renversements de situation. Liverpool, vous les avez évoqués à l'instant. Le fait d'être favori dans une finale, déjà une finale, le fait d'être favori, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Et là, encore plus après ces matchs qu'on a pu voir, non?
On vient de se replonger dans le parcours des Reds en Ligue des Champions cette année. J'aimerais qu'on jette un autre coup d'œil dans le rétroviseur et qu'on remonte encore un petit peu plus loin, quasiment un an jour pour jour.
The pain is too great to bear, it would appear. Physical damage and emotional damage. Salah in tears.
He's crying, he's out.
Carrius ticks it off easy enough, and as he throws it out there, Oh, and it's sloppy.
Bam. Oh, he's gone for it. And it's gone straight through the goalkeeper's hands. Another nightmare moment for Lorias Karius. A second goal for Gareth Bale.
Karius, on dit en anglais. Les malheurs de Liverpool l'an passé, c'était à Kiev, la finale de la Ligue des Champions, si mes souvenirs sont bons. Les malheurs de Kiev. En VO, Rémy Ngono, ce cauchemar, on imagine qu'il a laissé des traces. En même temps, il a poussé Liverpool à réaliser une saison extraordinaire, hein, même s'il n'y a pas de titre en Première Ligue au bout. Est-ce que les fantômes de Kiev ont été chassés dans les têtes des Reds?
Il faut rappeler que c'est l'équipe qui, contrairement à celle que je viens de critiquer, a eu plus de progression. Arrivé à cette finale, il faut se rappeler que c'est l'équipe qui est passée par les barrages. Liverpool était passé par les barrages et Liverpool réussit à tenir tête à toutes les formations en produisant un jeu magnifique. Et rappelez-vous quand même que c'est à cause des erreurs du gardien de but Karius qui va dire qu'il a eu une commotion cérébrale que Liverpool va se retrouver dans cette sauce-là. Mais autrement dit, c'est une équipe qui, quand on regarde la logique, d'ailleurs, elle détient la meilleure attaque de cette compétition-là, cette année-là, c'est-à-dire avec 39 buts, rien que déjà au niveau des demi-finales. Et maintenant, quand on voit la progression, c'est quoi? C'est que, à cette époque, le Liverpool, c'était 12 buts encaissés en Ligue des Champions chaque fois que Liverpool gagnait. Maintenant, Jürgen Klopp a revu le truc et il a dit, maintenant je soude, non seulement avec des guerriers au milieu de terrain, mais il a pris Van Dijk. Ça fait qu'aujourd'hui, Liverpool, pour moi, est la meilleure équipe de très loin d'Europe, que ce soit même en première ligue où ils perdent ce championnat-là avec 97 points. Et moi, je trouve que c'est une équipe très cohérente, très dangereuse et qui est correcte sur toutes les lignes, défense, gardien de but, milieu, attaque.
On a aussi le souvenir de cette sortie prématurée sur blessure de l'Égyptien Mohamed Salah. Ça avait clairement pollué le match
c'était le
des Reds. Le mot est faible. Alors, je parle de Salah parce que Salah, Mané, c'est des statistiques pratiquement jumelles cette année, pratiquement les mêmes buts le même nombre de buts en championnat, même nombre de buts en Ligue des Champions. Si
17-17 en Ligue des Champions d'ailleurs. Non, en Première Ligue où ils ont d'ailleurs.
Je parle sur cette saison 22-22.
En première ligue avec Aubameyang.
C'est-à-dire que Salah, les espoirs des Reds ne sont pas juste, se résument pas aux épaules de Mohamed Salah. Il y a une équipe qui est encore plus armée peut-être, où les forces sont mieux réparties.
Ouais, je pense pas que ça l'était déjà par le passé, même si la blessure de Salah l'année dernière en finale pour moi était le tournant de la finale. Sans cette blessure, je pense que Liverpool gagnait cette finale. Et effectivement, je pense que ça a servi tout le monde en fait. La méforme qui a suivi en plus Salah, il y a sa Coupe du Monde qui est compliquée derrière, le début de saison est un peu compliqué. Et Sadio Mané, c'est un peu... il est sorti un peu de la forêt en se montrant, dit « moi je peux faire aussi bien que Salah » et il est devenu aussi fort que Salah, voire meilleur. Cette saison, pour moi, c'est un des trois meilleurs joueurs de la Première Ligue, et sans doute un des trois meilleurs joueurs au monde. Il fait une saison fantastique et même une saison où Firmino est un peu moins bien, ça c'est les charges, les responsabilités s'équilibrent un peu. Mais moi, sur cette finale, ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé en 2005 et 2007, à la sortie de la finale de 2005 perdue par le Milan face à Liverpool. On connaît évidemment l'histoire. Galliani entre dans le vestiaire du Milan et dit, vous avez perdu, le Milan reste un club magnifique, un grand club, et voilà, il le sera toujours. Deux ans plus tard, ils reviennent, ils gagnent cette finale de Ligue des Champions, parce que c'est un grand club, parce qu'un grand club se relève des défaites. On va voir si Liverpool est capable de se relever des défaites, de revenir en finale et de la gagner, même s'ils sont favoris, même si c'est face à un club anglais.
Salomon Galli, pour l'instant, les signaux sont plutôt positifs, vont plutôt dans le sens des leçons apprises. Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être un petit bémol, les échecs
passés
de Jürgen Klopp, ils sont nombreux, oui. Tom Rossi.
Il y en a trois en finale de Coupe d'Europe, deux en Ligue des Champions. C'était Dortmund, déjà en 2013 face au Bayern. C'était le score de 2-1. Et l'année dernière, on s'en souvient, Liverpool-Real. Et aussi en Ligue Europa contre le FC Séville en 2016. Mais Jürgen Klopp est capable de gagner une finale. Oui. C'était une Coupe d'Allemagne.
Oui, mais c'est ça. Alors, est-ce à dire que Rémy Ngono va dire que c'est un loser? Ça, on ne sait pas.
Exactement la même chose.
C'est pas un loser, Jürgen Klopp.
Non. On ne peut pas dire qu'il est loser. Non, mon cher ami. Je veux dire, c'est contrairement donc à ce que je vous disais. C'est-à-dire que lui, Jürgen Klopp, il faut se dire, il a remporté la Bundesliga deux fois devant Pep Guardiola. Devant Pep Guardiola. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas. Et même quand on essaie de regarder cette saison. Et même cette saison, il ne devait pas être en Ligue des Champions parce qu'il était en finale de Ligue des Champions et il était en Première Ligue avec des joueurs qui étaient fatigués. Et cette saison, il revient, il fait une somptueuse compétition et regarde comment est-ce qu'il finit. C'est l'équipe qui, quand même, perd la Première Ligue avec une seule défaite. Donc, il faut savoir que lui, contrairement à celui que tu étais en train d'évoquer, lui, ce n'est pas Palmarès Néant. C'est quelqu'un qui a déjà remporté.
Oui, bien
voilà.
Sûr.
Mais c'est comme ça.
Bah, je suis taquin, Rémi. Non, mais pour revenir à Jürgen Klopp, c'est sûr que tous les signaux sont ouverts concernant cette équipe de Liverpool. C'est un fait.
Zéro faille.
Non, pas zéro.
Il
parce que, non,
il jamais.
Déjà,
il
et puis on a aussi, on pensait peut-être zéro faille, pas beaucoup de failles lors du match aller à Barcelone. On a vu le 3-0, la balade de, enfin, la balade. Non, Liverpool en avait eu des opportunités, vous allez me dire, mais était tombé sur un Messi stratosphérique. Donc non, il n'y a pas zéro faille. Loin de la même, face au PSG, on avait aussi une équipe qui a été en difficulté, notamment au Parc des Princes. Donc il n'y a pas zéro faille. Mais oui, aujourd'hui, au moment où on parle, les signaux sont plutôt ouverts.
Dernière question, Naby Keita, sera-t-il là?
Non.
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 Non, mais les failles, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, par rapport à cette équipe, elle est à la fois dangereuse sur les côtés, c'est-à-dire avec Trent Alexander-Arnold, qui d'ailleurs a déjà 12, qui a fait 12 passes décisives en première ligue.
Ouais. Mais, arrière latéral, en précise, on parle pas d'un
ailier. Meilleur latéral droit, oui. Mais sauf que, de plus en plus, il monte. Et ça peut être un danger pour lui parce que de l'autre côté aussi, il y a Anderson. C'est pour ça que je dis que cette équipe peut avoir certaines...
Robertson, le latéral gauche.
Anderson, c'est le milieu.
Oui, il monte beaucoup. Et ça fait que le milieu du terrain de Liverpool a tendance à se retrouver dans la surface adverse. Et c'est ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain, qui a mis rapidement Liverpool
Les contres, les comptes de Tottenham, ça peut faire mal.
Oui, le tableau noir de Rémy Ngono, redoutable, hein, comme ces proverbes africains. On va prendre un petit peu de hauteur, parler du contexte de cette finale de Ligue des Champions. On n'a pas fait d'erreur, je vous rassure. L'Atlético de Madrid ne joue pas la finale de la Ligue des Champions, mais c'est bien son stade qui va accueillir cette finale. Alors c'est un petit peu ironique, hein, d'ailleurs, hein, puisque d'habitude on a eu l'habitude de voir des clubs espagnols en finale de Coupe d'Europe ces dernières années, lors de la décennie, les années 2010, n'est-ce pas, Tom Rossi?
Ouais. Sur les 5 dernières éditions, c'est à chaque fois un club espagnol qui a gagné, et sur les 10. À chaque fois, 7 fois, c'est l'Espagne, l'Italie une fois, l'Allemagne une fois, l'Angleterre une seule fois. Est-ce que c'est un signe des temps? Est-ce qu'on change? Ouais,
parce que là, on a une finale en Espagne, sauf qu'on n'a plus que des clubs anglais qui disputent les finales de Coupe d'Europe. Est-ce que c'est un signe des temps? Bonne question de Tom Rossi.
Non, c'est une histoire de cycle. Moi, j'aime pas quand on réduit à des championnats. C'est le Barça et le Real ont toujours été des clubs historiques.
C'est une histoire d'équipe.
Une histoire de cycle de clubs. Et les clubs anglais étaient dans un cycle de reconstruction. Il y avait l'après Ferguson à United. Guardiola venait d'arriver à City. Klopp venait d'arriver à Liverpool. Il y avait la fin d'Arsène Wenger à Arsenal. Donc c'est juste des cycles de construction. Je suis persuadé que le Real sera de retour la saison prochaine. Et le Barça, vu ce qu'on entend au niveau du recrutement, il devrait être pas loin non plus.
C'est ça, et comme quand le championnat espagnol a été encensé ces dernières années, parce que quand le Real et le Barça a gagné, on disait que le championnat espagnol était le meilleur. Alors, c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de club espagnol en finale qu'on va dire que le championnat espagnol est devenu tout pourri, mais d'autre côté, c'est pas parce que ces dernières années il n'y avait pas de club anglais en finale que le championnat anglais était nul aussi. Donc, faut mesurer parfois nos propos et on est là pour ça aussi.
On rappelle que Chelsea a remporté la finale de la Ligue Europa contre Arsenal.
C'est pour ça que vous avez aimé Chelsea.
Ce mercredi, exactement. Moi, je suis du côté des vainqueurs. C'est un peu ça être journaliste quelque part. Ça s'est joué à Bakou, la finale de la Ligue Europa en Azerbaïdjan. Là, on va jouer dans ce qui ressemble un petit peu plus à un stade de football comme on les aime, une ambiance un peu plus adaptée, beaucoup plus de supporters anglais pouvant faire le déplacement.
A priori,
c'est un peu plus la fête dans les rues de la capitale espagnole. Tant mieux. C'est une manière de rattraper un peu le coup par rapport à ce stade de Bakou qui était un petit peu embarrassant, non, Rémy Ngono, non?
Oui, mais en même temps, il y a quelque chose qui me déplaît, c'est cette façon, cette flambée des prix, parce que ce soit à Bakou, les supporters se plaignaient non seulement de l'Orient, mais il y avait aussi le coût des billets et tout. Aujourd'hui, à Madrid, une chambre d'hôtel équivaut à 1200 euros. Le billet, c'est 680 euros. Donc, dites-moi, comment est-ce que, véritablement, quelqu'un qui aime le football pourrait bien se retrouver dans cette ambiance-là. Donc, pour moi, une fois de plus, l'UEFA est en train de tout réduire au commerce.
Mais ça, c'est pas l'UEFA qui est responsable du prix des hôtels et du prix des billets d'avion.
Après, Rémi, malheureusement, vous avez raison sur le fait que, sur cette inflation des prix hôtels et autres. Mais il y a des personnes qui répondent en face, j'entends par là. On évoquait hors antenne de nombreux supporters dans les rues de Madrid, là, et même les supporters de Liverpool et de Tottenham qui fêtent ensemble cette finale, en tout cas aujourd'hui encore. Donc, vous avez des dizaines de milliers de supporters qui, quand même, malgré les milliers d'euros, les centaines d'euros, en tout cas peut-être 1000, 1500 euros, vaut quand même le payer, cet hôtel, ce billet, ça, pour y aller. Tant que, entre guillemets, il n'y aura pas de stade vide pour la Champions League, j'entends, l'Europa League c'est un cas à part et Bakou c'est vraiment un cas particulier, mais tant qu'il n'y aura pas de stade vide, l'UEFA se dira, allez, on se fait plaisir, les hôtels se diront, on se fait plaisir, les avions, les compagnies aériennes et autres. Donc malheureusement, c'est une inflation, mais de l'autre côté, il y a des gens qui répondent présents.
Allez, un petit tour de table, on est obligé. Les pronos ? Des pronostics en bon français. Bruno Constant, mouillez-vous.
Deux partout.
Oh bah super.
Ah,
et
donc
qui soulève la coupe à la fin.
On va prendre le tour de visage. Incroyable, Bruno Constant. Pour la première fois, il y aura deux vainqueurs.
Mais tu veux pas que je te dise, en plus qui va marquer les tirs au but et qui va les arrêter. Je vous dis deux.
Écoutez, vous êtes bien payé, vous pourriez.
Je vous dis deux. Je vous dis deux.
Rémi Gonneau.
3-1 pour Liverpool avec un but de Mané, un but de Salah et un but d'un milieu de terrain. Donc j'ai vu, je ne sais pas son numéro, quand j'étais en train de faire des rêves, son numéro a été flouté.
Tom Rossi, comme mon maillot l'indique, 2-1 pour Liverpool.
Et vous portez le maillot de Tottenham. D'accord, sans dire long sur votre mentalité.
Pour le coup, tout à l'heure je le disais, ça sera très compliqué de se prononcer. Bon, vous me le demandez, je vais le faire quand même. Ça peut jouer tellement à rien. Bon, Liverpool, je veux dire Liverpool, mais bon, Tottenham a démontré ces dernières semaines que tout était possible. Mais je veux dire Liverpool quand même.
Liverpool, Tottenham, finale de la Ligue des Champions 100% anglaise. Coup d'envoi, 19h, temps universel. Demain, on va terminer justement avec l'hymne britannique.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Voilà, on s'est peut-être un peu trompé de version du God Save the Queen.
Légèrement. Bah,
c'est celle qui était un peu plus insolente que l'autre. Voilà, on a refermé donc une belle page consacrée à la Ligue des Champions en Europe. Mais la Ligue des Champions reste au programme de Radio Foot et du Café des Sports, puisqu'on va simplement changer de continent, parler du continent. Tout simplement, l'Espérance de Tunis va tenter en Afrique de réaliser le doublé, le back-to-back sur son terrain. C'est ce soir face au Wydad Casablanca, match retour de la Ligue des Champions africaine. Coup d'envoi 21h, temps universel, un partout à l'aller la semaine passée. Un partout, des polémiques liées à l'arbitrage également, Tom Rossi.
Eh oui, déjà au moins deux. La première, c'est dans les arrêts de jeu de la première période. Un but d'Ayoub El Amloub pour le Wydad a été annulé par l'arbitre égyptien pour une main. Après recours à l'assistance vidéo, il y avait la vidéo pour cette finale. Et deuxième polémique, un pénalty refusé au Wydad juste après la pause, l'assistance vidéo a établi que le ballon avait touché l'épaule d'un défenseur de l'Espérance et non sa main. Et du coup, eh bien, l'arbitre égyptien Gerard Gritcha a été suspendu 6 mois mardi pour performance faible par la CAF. Ce sont les dires de la CAF. Et c'est le Gambien Bakary Gassama qui dirigera le match retour sous pression parce que du côté de l'Espérance, on a demandé qu'un autre soit nommé à sa place.
Ça ne plaisante pas avec l'arbitrage.
Ça plaisante, plutôt.
Ça plaisante. Allez-y, lâchez-vous.
Ah non, attendez.
Exprimez-vous.
Non, je vais dire que ça devient de plus en plus malheureux pour nous en Afrique, parce que vous vous rappelez quand même que chaque fois, on dit, on suspend un arbitre, et puis, c'est toujours le même motif, performance faible. Alors, quelle est la performance qu'on demande à un arbitre. Donc, à une certaine période, on se souvient d'ailleurs de cette histoire rocambolesque qui s'est tenue entre le Sénégal et, par exemple, l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde. C'était le 12 novembre.
C'était lors des éliminatoires avec un match qui a été rejoué.
Voilà, avec un match qui a été rejoué. Et vous voyez, ce que moi, je suis en train de condamner, c'est quoi? C'est que les arbitres africains sont totalement des chargés des missions de la Confédération africaine de football. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, lorsque vous regardez depuis un certain temps, c'est les mêmes arbitres qui reviennent, qui font les mêmes fautes, on suspend pour 3 mois, après il revient comme chargé des missions pour aller s'aiguiller comme une ampoule, il revient parce qu'il sait que de toutes les façons, il sera relavé. J'ai vu, par exemple, le tout puissant Mazembe contre un club, le Stade Malien. C'était déjà en 2008. Alors, c'était un Mauricien. Déjà, à Maurice, il n'y a pas de championnat. Et c'est lui qui arbitre une super coupe d'Afrique. Non seulement il permet au tout-puissant Mazembe de gagner, mais tout le monde se plaint. Mais on se dit, le gars, il va au garage, la CAF fait semblant de le mettre au garage. En 2010, il revient encore avec le même tout-puissant Mazembe. Il aide encore le tout-puissant Mazembe contre Espérance de Tunis. Et hop, on se dit que c'est déjà terminé. Il refait le même coup contre le Maroc. Le Maroc fait une pétition qui recueille plus de 10 millions de personnes qui disent qu'on ne doit plus jamais le voir. En 2012, on le remet, il refait la même faute. Et qu'est-ce qu'on fait? À la CAN de 2014, c'est-à-dire que en Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, contre la Tunisie, ouais. C'est le même mec que la CAF prend, remet sur le stade, ouais. Il accorde n'importe quoi, on le vire, et il avait quel âge? 44 ans, donc un retraité. On est parti prendre quelqu'un à la retraite pour le glisser comme ça. Donc, pour moi, pour l'instant, je vois que tout le théâtre qu'on est en train de faire là, c'est juste pour essayer de mettre de la poudre aux yeux. Mais en fait, on n'élimine jamais ces arbitres. Il y a un proverbe africain qui dit « Les corbeaux ne crèvent pas les yeux des autres corbeaux ».
On l'a attendu, hein.
Oui, c'est ce premier, hein.
Premier ouais. Proverbe africain, 17h51 à Paris, 51 à Paris, ça fait long.
Et comme quoi, Rémi Ngolo, on est connectés, lui et moi, puisque avant l'émission, on parlait de cet arbitre mauricien que vous évoquiez il y a quelques instants avec ce Guinée équatoriale face à la Tunisie. C'est vrai que très souvent, alors là on prend le cas de l'arbitre mauricien, mais très souvent l'année dernière sur la finale de la Ligue des Champions, déjà la finale aller, il y avait un souci avec un arbitre qui avait été suspendu également. Et c'est le problème, c'est que là on parle du cas africain, en tout cas avec des suspensions régulières. En Europe, le truc c'est qu'il y a souvent des erreurs d'arbitrage, à tous les matchs, toutes les compétitions, sauf qu'il y a juste l'UEFA qui ne sanctionne pas au final, parce que ces arbitres reviennent, mais au final l'UEFA ne sanctionne pas. Les arbitres reviennent, et au final il n'y a pas de souci. C'est juste ça la seule différence.
Alors, oui, la seule différence, mais c'est l'erreur. Parfois c'est flagrant.
Là, est-ce que c'est des erreurs? Est-ce que c'est des erreurs d'arbitrage, ou est-ce que c'est des arbitres qui sont influencés?
Puisque lorsque vous regardez certaines, j'ai regardé certaines notes de la CAF, où on dit qu'il y a des preuves de corruption contre, par exemple, voilà. Le Mauricien, comme par exemple, bon...
Attention, il n'y a pas eu de preuve de corruption puisqu'il n'a pas été sanctionné.
J'ai dit Mauricien.
Oui,
je ne parle pas de Lamté, Joseph Lamté. Lamté, c'est le Ghanéen qui Lui, là, il n'y avait pas de corruption. Okay. Mais les autres, il y a bien de la corruption, c'est certifié et tout et tout. Donc, d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé dans l'autre match le 5 mai, toujours en Coupe africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'arbitre, le trio arbitral tunisien a été escorté. Et finalement, les Tunisiens, ils ont tapé même sur lui parce que c'était horrible par rapport à ce qu'il était en train de faire. Donc, il y a de la mauvaise foi manifeste. Ici, parfois, on voit certes des incompétences, peut-être qu'il y a de la corruption. Mais là, comme j'ai dit, le cas de certains arbitres africains, c'est qu'ils sont mêlés à des choses qui ne sont pas tout à fait catholiques et qui ne sont pas tout à fait recommandables, mais ils sont remis dans le cycle. Et c'est ce que je dis, que c'est là où j'accuse la CAF formellement de toujours venir mettre, mais dernièrement ils ont dit que mauvais positionnement d'un arbitre, mauvais déplacement d'un arbitre, mauvaise interprétation de faute de l'arbitre. Mais c'est pas possible. Et par la suite, ils remettent le même arbitre 3 mois après.
CAF qui se décrédibilise.
On va pas épiloguer sur l'arbitrage. On a bien compris votre réquisitoire, Rémi Ngono. C'était du Rémi Ngono, quoi. Et on peut juste évoquer le calendrier de cette Ligue des Champions, hein, qui a été revu cette saison. Maintenant, c'est un peu plus calqué sur la Ligue des Champions européenne, au point que la finale retour se joue le même week-end que la finale de la Ligue des Champions européenne. C'est peut-être un petit peu dommage, non, pour la visibilité, d'avoir une espèce de levée de rideau quelque part de la Ligue des Champions européenne, de pas la mettre davantage en valeur, non?
Là, le même jour, un peu plus tôt.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui. Un jour
ce
avant.
Vendredi.
Donc, ça pose pas de problème. Je sais pas, est-ce que, oui, sans doute en Afrique, évidemment. Si on met les deux côte à côte, je sais pas.
Après, le fait de le calquer aussi, ben, on calque de toute façon différentes compétitions. Là, désormais, la CAN se calque aussi sur le calendrier européen. Désormais, la Coupe d'Afrique des Nations, en étant l'été, à l'avantage des clubs européens, au final, hein, qui donnent, entre guillemets, leurs joueurs africains. Donc, au final, c'est plutôt logique d'avoir aussi la Ligue des Champions qui se calque sur ce calendrier européen.
Espérance Wydad Casablanca ce soir, finale retour de la Ligue des Champions africaine, un partout au match aller.
Carton jaune,
du carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là,
carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Coup de cœur, coup de gueule, carton vert, jaune, rouge. Simon Galli, vous commencez.
Comme le maillot, on va dire. Rouge.
Ah oui, maillot rouge, maillot rouge vif.
Ça peut être ça, effectivement, carton rouge, ou comme les couleurs du logo de RFI, de Radio Foot. Par rapport, évidemment, à ces finales d'Europa League, ce mercredi, entre Chelsea et Arsenal, ce stade a... pas plein, en tout cas loin de là, un déplacement calamiteux, pour pas dire autre chose, une interdiction pour un joueur de se déplacer, on le rappelle, Henrik Mkhitaryan qui n'a pas pu jouer ainsi en Azerbaïdjan en raison de la tension politique qui existe entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en rappelant que ce stade quand même, qui a été un comble, hein, on l'a vu en tout cas visuellement, et puis il y a eu beaucoup de choses à évoquer, ce stade sera utilisé pour l'Euro 2020, la saison prochaine. Trois matchs de poule, un quart de finale se joueront dans ce stade de Bakou. Bref, un choix totalement loupé de la part de l'UEFA qui remet une couche la saison prochaine, puisque la finale de l'Europa League n'aura pas lieu dans un grand stade, entre guillemets, mais à Gdańsk, en Pologne.
Bruno Constant.
J'ai hésité longuement avec Bakou, parce que c'est un scandale absolu. J'ai un ami qui va régulièrement en finale de Ligue des Champions, qui dit que c'est la pire finale de Coupe d'Europe qu'il ait vue. Une atmosphère totalement vide, enfin, c'était catastrophique. Mais je vais donner mon carton vert à Maurizio Sarri, qui a été extrêmement critiqué cette saison, à juste titre, parce qu'il a fait des erreurs aussi, mais qui finit avec finalement une première saison à Chelsea plutôt honorable, troisième place en Première Ligue, et puis surtout cette finale, il fait une finale de Coupe de la Ligue où il a plutôt bien, Chelsea a plutôt bien joué face à City, et puis cette victoire en Europa League, et quand je le vois avec sa médaille, tout heureux, son premier trophée à 60 ans, et qu'il est, on avait l'impression que c'était un gamin sur la pelouse pendant que les joueurs fêtaient, il regardait sa médaille de tous les, j'ai trouvé ça touchant. Et voilà, je suis content pour lui parce que c'est un entraîneur qui prône un jeu offensif, qui prône une ouverture dans le jeu, et j'espère qu'il sera récompensé. J'espère surtout qu'il sera maintenu à Chelsea, parce qu'il le mérite, qu'on lui redonne au moins une deuxième saison et qu'il continue à bâtir ce qu'il a fait à Chelsea.
Rémi Ngono, votre carton.
Alors, Walid Lawani et Rahmane Diabakate, de ma page Facebook Rémi Ngono officiel, donnent un carton rouge à la Fédération Ivoirienne de Football, et particulièrement au président, qui, bien évidemment, ont refusé de sélectionner Gervinho, qui fait de très bonnes performances, juste parce qu'il avait critiqué la gestion, le comportement des dirigeants. Eh bien, on dit, on va te virer, et au lieu d'assumer que c'est parce qu'il nous a critiqué qu'on le vire, il commence à trouver plutôt des raisons sportives qui ne sont pas convaincantes. Donc, quand ça va foirer avec la Côte d'Ivoire, c'est là où on saura l'importance de Gervinho, comme le dit un proverbe africain, quand tu tues ton chien, tu laisses les voleurs entrer dans ta maison.
Tom Rossi,
un petit carton vert pour le système des barrages pour l'accession en Ligue 1, ça nous donne des matchs à haute tension, et ça nous permet de revoir Lens, le stade Félix Bollaert, plein, avec une superbe ambiance. Il y a eu un partout au match aller, le retour, ce sera à Dijon dimanche.
Merci Tom Rossi, merci Salim Bangali, merci Bruno Constant, merci Rémi Ngono. Demain, la finale de la Ligue des Champions en Europe, coup d'envoi 19h temps universel, et bien sûr on y reviendra, on verra aussi sur la finale de la Ligue des Champions africaine dans Mondial Sport, coup d'envoi 21h30 temps universel. Merci David Brocouet, merci David Finzel, bon week-end sur RFI.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.